France Inter. Le masque et la plume. Tom Cruise en sauveur de l'humanité, le nouveau film de Wes Anderson, de jeunes mères filmées par des frères, ou encore Cédric Clapiche, téléporté à la fin du 19e siècle, tel est le programme de l'épisode du jour. Pour en débattre, merci d'accueillir Florence Colombani du Point, Pierre Murat tel qu'on lui-même, Ariane Allard du magazine Positif et Xavier Le Herpeur de la revue La 7e Obsession et de France Inter. Luc et Jean-Pierre Dardenne, Christopher McQuarrie, Rebecca Lenkiewicz, Wes Anderson et Cédric Clapiche sont les cinéastes à l'affiche du Masque à venir. Bonjour. Et bienvenue. Vos courriers sont non seulement l'occasion de prolonger les débats du masque, mais aussi de pallier d'injustes oublis. Mathilde Chédru et David Lemaire vous conseillent Little Jaffna, premier film de Laurence Vallin. Je vois que tu opines du chef, Xavier.
Petite merveille, une vraie révélation.
Selon Swann Robert de Marseille, Little Jaffna est un thriller qui mêle l'univers de Martin Scorsese et de Bollywood, tout en dévoilant une face cachée de Paris. Cet auditeur écrit « Laurence Vallin filme aussi bien les courses-poursuites que les scènes religieuses, la direction d'acteurs est excellente et les dialogues subtils. Pas mieux. En revanche, vos avis sont mitigés concernant Les Linceuls de David Cronenberg. Même s'il est un inconditionnel de l'œuvre du cinéaste canadien, Christophe Pardon de Valence a trouvé son dernier film bavard et ennuyeux, malgré la justesse de Vincent Cassel. Enthousiasme unanime pour Les Musiciens de Grégory Magne. Un exemple avec le mail de Maxime Leveille de Tours qui commence comme ceci. Cher Masque, soyons francs et directs, tes chroniqueurs n'ont absolument rien compris aux musiciens. De même que Madame Bovary n'est pas un livre ennuyeux, mais un roman sur l'ennui, Les Musiciens n'est pas un long métrage sur la musique, mais un film qui invite à ralentir. Courez-y et emmenez vos adolescents, conclut Maxime. Franck ajoute, j'ai adoré Les Musiciens et suis étonnée par le manque de conviction de vos critiques, pourtant j'ai le souvenir que le film a été défendu, qui nous conseille souvent des œuvres bien plus lentes et bien plus chiantes, mais certainement pas aussi plaisantes. Supprimer la lecture du courrier des lecteurs, s'exclame un auditeur anonyme. Je suis au regret de vous dire qu'il n'en sera rien. Les critiques aussi ont droit à vos critiques, enthousiastes ou pas. On commence avec The Phoenician Scheme de Wes Anderson, qui était en compétition pour la Palme à Cannes et qui est reparti bredouille. L'univers au cordeau de Wes Anderson accueille un nouveau venu, à savoir Benicio del Toro, dans le rôle d'un milliardaire sans scrupules, qui a le prénom d'une star hollywoodienne. Il s'appelle Zaza. En anglais, on dit Jaja. Zaza Corda, donc c'est comme ça que je vais dire. Malgré les tentatives d'assassinat dont Zaza fait l'objet, il survit à tout. Cela dit, il anticipe sa fin prochaine en choisissant sa fille aînée pour unique héritière, tandis qu'il est le père d'une ribambelle de gamins. Zaza connaît à peine sa fille, elle veut être nonne et elle fume la pipe. Voilà père et fille partis dans de folles aventures, sur mer, sur terre et dans les airs, pour convaincre des puissants de financer le plus grand projet de Zaza. On croise Mathieu Amalric en patron de boîte de nuit coiffé d'un fez, Tom Hanks en capitaliste amateur de basket. Quant à la jeune nonne héritière de Zaza, elle est jouée par Mia Trippleton. On peut être emballé par le rythme de ses aventures pétries de références cinéphiliques ou lassé par la mise en scène de Wes Anderson qui utilise la même grammaire de film en film. Xavier, tu appartiens à quelle équipe ?
Ah bah définitivement à la seconde, je n'en peux plus de Wes Anderson. Enfin, vraiment, il y a que Cannes pour le mettre en compétition chaque année et pour le voir repartir bredouille. On nous fait la même mise en scène chaque année. C'est-à-dire qu'on met toutes les stars dans le même bus et elles descendent l'air absolument ravies d'avoir participé. Ouais. Ah ben si, ils nous font le coup à chaque fois du collégial, tu sais. On s'est tellement bien marré, on s'est tellement bien entendu qu'on va tous venir défendre le film qui repart évidemment avec rien et c'est très mérité quand même. Déjà la compétition, c'est quand même beaucoup. Alors, pour la première fois de ma vie, je vais recommander un film en VF. N'étant pas à Cannes, je suis donc allé rattraper le film dans une salle à Paris, et je crois que je n'ai jamais vu une aussi petite police de caractère pour les sous-titres. On ne voit rien. Sans doute Wes Anderson a-t-il exigé qu'effectivement le lettrage n'ampute pas la beauté de ces plans et de leur composition picturale. En plus, les sous-titres ils se baladent partout, donc j'ai vu une partie de la salle migrer, moi aussi, au premier rang, en se disant « on va essayer quand même de comprendre quelque chose ». Une fois qu'on a vu 10 minutes de sous-titres, tout le monde est reparti à sa place, on s'est aperçu que ça n'avait strictement aucun sens et aucun intérêt. Et s'extasier sur la mise en scène. Pierre, je vais te céder la parole, ne t'inquiète pas.
Non mais je t'approuve, il a la carte, ça. Ah ben, non.
Alors j'aime pas l'expression, mais oui, effectivement, d'une certaine manière. Et s'extasier sur la mise en scène de Wes Anderson, c'est comme se palucher sur du papier millimétrique. C'est-à-dire, c'est... ah, mais qu'est-ce que c'est beau, regarde tous ces petits carrés. Mais j'en ai rien à foutre, c'est désincarné. Le type est incapable de regarder le monde dans lequel il vit. C'est vraiment une espèce de protection esthétique d'un ennui absolument sans nom. Le récit se fait sans nous. On s'amuse de temps en temps de voir Amalric avec un fez, mais c'est même une insulte à cet immense comédien. Et comme d'habitude, c'est ce que j'avais déjà dit la dernière fois, on aurait dû rediffuser, je sors de là et je me dis, mais ça me raconte quoi? Et il ne serait pas adoubé par le Festival de Cannes. Je crois qu'il aurait disparu depuis fort longtemps et ce serait mérité.
Est-ce que toi, Florence, tu l'adoubes ?
Moi, je l'adoube quand même parce que j'avais fait une pause, il faut dire. J'avais fait une pause, j'avais pas vu les deux derniers films de Wes Anderson et je pense que ça fait du bien. Parce qu'en effet, il y a un côté répétitif et que quand on les voit tous, eh ben, on sature complètement, comme Xavier, clairement, qui doit faire maintenant un jeûne assez long avant de revoir des films de Wes Anderson. Moi, après ma coupure, j'ai apprécié parce qu'il y a d'abord cet univers de maison de poupée quasiment horrifique, c'est-à-dire qu'en effet, l'univers de Wes Anderson est très maniéré, très précieux, il reconstitue tout dans des petits décors qui ressemblent à des maisons de poupées, il fait toujours les mêmes mouvements de caméra latéraux sur ces décors tellement soignés, et il raconte en fait toujours la même chose depuis la famille Tenenbaum, c'est-à-dire qu'il raconte comment...
Des problèmes familiaux.
Voilà, comment on n'a pas de famille, on n'a pas de place dans sa famille, on est affligé de gens de sa famille, mais on n'arrive pas à avoir un lien avec eux. Et là, ce qu'il raconte surtout, c'est une relation père-fille. Et pour moi, le film fonctionne parce qu'il y a une incarnation nouvelle. C'est-à-dire que Benicio del Toro, c'est du sang neuf dans cet univers très balisé de Wes Anderson. Et Mia Shrippleton aussi, c'est deux acteurs qu'on n'avait pas vus chez lui. Et ça donne une nouvelle énergie qui reste quand même mesurée. C'est pas non plus un film dont on sort complètement énergisé. Il y a une mélancolie, il y a une noirceur, il y a ce récit d'une relation familiale qui peine à exister, qui finit par exister, et il y a quand même de l'humour, il y a quand même des moments très drôles, notamment autour du personnage de cette jeune fille religieuse qui voudrait vivre dans le dénuement, mais en même temps, quand on lui tend un rosaire fait de rubis et de pierres précieuses, on sent que ça lui plaît quand même. Donc il y a des petits moments qui sont assez jolis, assez drôles. À mon sens, c'est un film intéressant dans le contexte d'une œuvre qui est très pléthorique, peut-être trop, mais qui reste attachante.
Pierre,
est-ce que ça vous est arrivé de voir un film où tout devrait fonctionner parce que tout est là, il avait un univers, là rien, vous vous rendez compte au bout de 10 minutes, parce que les 10 premières minutes il se passe un petit quelque chose, il y a un accident, il y a un truc. Et au bout de 10 minutes vous apercevez que rien ne fonctionne, mais rien ne fonctionne, c'est répétitif, c'est mécanique, c'est verbeux et c'est surtout au bout d'un certain temps mais extrêmement ennuyeux. Là, moi, j'ai lu une critique qui s'extasiait sur une plongée comme ça.
Sur une salle de bain.
Oui, voilà, sur une chambre comme ça.
C'est le générique d'ouverture.
Voilà, c'est le... Et puis, donc, je raconte pas grand-chose, je ne raconte pas la fin. Mais
non, c'est le début, là.
Il y avait trois ou quatre personnages qui... Et tout le monde dit, oh, qu'est-ce que c'est bien mis en scène. Mais enfin, on rêve. Enfin, n'importe quel film de Black Edwards, qui est une de mes idoles, mais il filmait l'absurde avec beaucoup plus de verve. Mais c'est absolument atterrant. Enfin, je ne comprends pas comment les gens continuent à aimer un réalisateur qui, depuis un ou deux films, me semble en panne. Lui-même n'y croit pas.
Ariane ?
Oui, alors moi, je suis partie des gens qui ont beaucoup aimé et beaucoup revu certains des films de Wes Anderson. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui je ne l'aime plus. Pourquoi aujourd'hui il me lasse ?
Parce
pourquoi
que tu es lucide.
Non, pas du tout.
Tu as grandi.
Alors, ce film, il est intéressant parce que justement, je pense qu'il m'a donné quelques explications. C'est un film qui est très curieux parce qu'il reprend des thématiques qu'on a vues dans tous ses films précédents, notamment cette figure du père défaillant, du père escroc aussi, parce que le personnage principal, c'est un industriel richissime qui est tout le temps en train d'arnaquer lui-même
et sans scrupule,
sans scrupule, et qui va passer
son
temps.
Cela dit, on comprend pas grand-chose au reste de l'histoire.
Non, je suis d'accord. Ce qu'on voit, c'est qu'il est tout le temps en train de tomber. Il est tout le temps en train train de chuter. Et voilà, tout le film raconte sa chute. Hein. Et donc, la métaphore, elle est un peu lourdingue, je suis d'accord. Il me semble qu'il lui manque quelque chose qu'il avait au départ, qui était cette espèce de grâce mélancolique, ou mélancomique même, c'est un mot qu'on a souvent utilisé pour lui, et qu'il n'a plus aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est rattrapé par cette mécanique graphique dont vous avez parlé tous les deux? Est-ce aussi, j'ai remarqué qu'il avait changé, par exemple, de chef opérateur, du directeur photo, c'est plus le même, celui qu'il avait d'ordinaire, c'était Robert Yeoman, c'est, vous savez, ces couleurs bien franches, parfois pastel, mais quand même très éclatantes. Le film, cette fois-ci, ce sont des couleurs beaucoup plus éteintes, je dirais, pas sombre, mais qui confère à ce film une espèce de noirceur, aussi bien extérieure d'ailleurs qu'intérieure, et qui fait que le film, en plus il y a des scènes quand même très très gore, qui fait que ce film devient presque sinistre, voire morbide. Alors après, vous allez me dire, et je pense que c'est vrai aussi, la mort a toujours taraudé, cette thématique de la mort a toujours taraudé Wes Anderson, sauf que là, il approche la soixantaine, peut-être que ça commence à se rapprocher aussi pour lui, et que, de fait, il y a quelque chose qui imprègne nouvellement l'atmosphère de son film, et qui fait qu'on lui résiste davantage, parce qu'on s'y amuse moins, il faut dire les choses.
Une intervention du public pour ce nouveau Wes Anderson, intitulé The Phoenician Scheme. Vraisemblablement non, donc après Wes Anderson, on enchaîne avec le nouveau film de Cédric Clapiche intitulé La venue de l'avenir. Tous les membres d'une même famille sont réunis en Normandie pour décider de la vente de la maison de leur ancêtre. Quatre d'entre eux sont désignés pour visiter la demeure. C'est l'occasion dans le scénario de mettre en présence des personnages qui n'étaient pas faits pour se rencontrer. Une ingénieure au bord du burn-out, un apiculteur rêveur, un jeune homme qui fabrique des contenus digitaux et un prof de français. Alors en explorant la maison de leur aïeul, tous les quatre découvrent la vie d'Adèle, une jeune femme qui vécut à la fin du 19e siècle et qui quitta sa Normandie natale pour aller à Paris faire connaissance avec sa mère. Le montage tresse deux temporalités, le 19e siècle, où l'on croise Nadar ou Sarah Bernhardt, et l'époque contemporaine. Il est question d'héritage et de transmission jusque dans le casting, puisqu'il réunit Suzanne Lindon dans le rôle d'Adèle, Paul Kircher, Vassily Schneider ou encore Sarah Giraudeau. Pierre.
C'est un réalisateur sympa parce que les efforts qu'il fait, le malheureux, pour, par exemple, nous montrer la naissance de l'impressionnisme, il a un bon chef-op, alors ils essaient...
Je sens un tel enthousiasme dans ta voix.
Oui, ben voilà, non, c'est ça. Et puis, il y a une scène qui m'a fait sourire, c'est à la fin, un prof comme ça qui prend sa retraite. J'ai cru que c'était une moquerie, à un moment donné. Le prof prend sa retraite et tous ses étudiants l'acclament. Et ça ne se passe pas dans les années 50.
Non, ça se passe de nos jours, cette scène.
C'est désarmant, voilà, c'est désarmant. Donc il y a deux époques, le 1900 et aujourd'hui. Et la grande idée de Cédric Clapiche, évidemment, je ne sais pas comment il aurait pu faire autrement, mais si on est un grand cinéaste, on essaye. C'est par exemple, il y a une scène où on voit Suzanne Lindon, l'héroïne, monter un escalier sur les quais de Seine. Elle monte un escalier, elle disparaît. Et hop, tout de suite après, il y a un jeune black qui arrive, un rappeur comme ça, qui est là pour bien montrer qu'on a changé d'époque. Mais au bout d'un certain temps, c'est un procédé qui pèse très 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 lourd. Et alors il y a une scène où il y a deux époques qui se rejoignent par un caprice de l'espace-temps, et donc le présent, 2024, rencontre l'ancienne époque. Et là... Je me suis dit, mais c'est totalement loupé. Il y a un film de Woody Allen qui est magnifique, qui s'appelle Minuit à Paris, où il arrivait avec une espèce de légèreté, de grâce, d'invention, de nous faire admettre ça. Et là, les deux époques, mais il y a un moment donné, la malheureuse Cécile de France qui arrive, je viens de me faire draguer par Victor Hugo. Mais tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi lourd. Mais en même temps, c'est très... La partie 1900, grâce à ces jeunes comédiens que tu as cités, c'est-à-dire Suzanne Lindon, Vassily Schneider et Paul Kircher, est sympa.
Ariane.
Non, je ne suis pas d'accord du tout. Alors, pour le Woody Allen, il y avait une part d'onirisme qui n'est absolument pas dans le film de Clapiche, qui joue plutôt le côté un peu... Alors, soit... Ben non, ça ne marche pas. C'est-à-dire, tout ce qu'ils veulent créer comme onirisme, c'est complètement artificiel, et je dirais même artificieux. C'est-à-dire qu'on voit cette belle déchance, donc cette jeune fille des campagnes qui arrive à Paris, elle tombe tout de suite sur un photographe, c'est l'art naissant. C'est pas en 1900, c'est en 1895, le film.
Parfait.
Voilà. Et ça compte pour quelques années, et quand même important, puisque c'est le début de la photographie. D'accord. Elle est invitée à une réception. Elle tombe sur qui ? Elle tombe sur Sarah Bernhardt et sur Nadar, le grand photographe de l'époque. Je veux dire, il y a un moment donné, enfin, voilà, juste un tout petit peu de souci, quand même, de pertinence dans le scénario. Moi, je n'y crois pas une seconde.
Il y a un côté conte, là.
Ouais, enfin, le côté conte, franchement, il est asséné avec tellement de lourdeur. Ce que je trouve intéressant et ironique dans l'histoire, c'est que c'est un film qui veut nous parler d'héritage et de transmission et qui ne laisse aucune trace. C'est-à-dire, quand on sort du film, tout s'est évaporé, et rien n'est resté. Ça nous parle de quoi ? Ben finalement, je trouve que le scénario qui ne parvient pas à tenir son sujet, ce bouquet de jeunes comédiens, fils et filles d'eux, nous parle encore un peu mieux de ce que c'est que la vraie bourgeoisie. C'est-à-dire, la bourgeoisie, c'est quoi ? C'est un ensemble de valeurs et de privilèges qu'on se transmet uniquement par népotisme ou par endogamie, et je trouve que ça parle exactement de ça, ce film.
Florence ?
Pour moi, c'est pas du tout le problème, les acteurs. Je pense que le problème du film, c'est un problème de sensorialité, de capacité à restituer un univers d'époque d'une façon qui nous emporte. Et je trouve que là, on voit énormément les effets spéciaux, puisqu'on est dans ce Paris, en effet, comme disait Pierre, qui passe d'un moment à l'autre de son histoire, clairement, avec l'aide d'un ordinateur. Et ça, c'est terrible, ça fait une sorte d'image très lisse, très plate, et qui nous sort du récit. En plus, il y a le problème de cette double narration qui fait penser aussi aux séries, c'est-à-dire qu'on est toujours sur deux niveaux de récits différents, mais en fait, on ne prend jamais le temps d'en développer vraiment un sur le plan romanesque. Mais moi, j'ai pris le film avec bonne humeur, comme un docu-fiction, plutôt réussi, c'est-à-dire que on est, pour moi, la comparaison même avec Woody Allen et l'onirisme et tout ça dans Midnight in Paris ou dans d'autres films de ce genre ne fonctionne pas parce que le film ne cherche pas du tout à être ça, il cherche vraiment à nous éduquer d'une façon très pédagogique, très didactique, ce qu'on peut tout à fait lui reprocher, mais il n'a pas cette ambition. Du coup, le reproche est très sévère.
Pour ce
qu'il
a.
Je pense qu'il a l'ambition d'être un très bon docu-fiction sur la naissance de l'impressionnisme et que donc c'est pour ça qu'on rencontre Nadar, on rencontre Claude Monet, on rencontre vraiment ça commence devant les nymphéas et ensuite ça nous explique qui était Claude Monet. C'est un film qui veut remplacer un cours d'histoire de l'art. Après, on peut beaucoup lui reprocher deux choses, mais c'est une intention qui me paraît absolument acceptable. Et par ailleurs, j'aimerais sauver quand même Cécile de France, qui est extraordinaire dans son rôle de conservatrice, qu'on a l'impression d'avoir déjà vu témoigner dans une émission de télévision. Elle a un phrasé, elle a une façon de s'habiller. On a l'impression qu'elle a une métamorphose un peu à l'américaine comme ça, un rôle de composition qui est très savoureux. Non, je trouve que c'est un film plaisant, mais qui n'est pas une œuvre de cinéma. C'est vraiment fait pour France 5, quoi.
Xavier.
Ah ben c'est très mauvais. C'est effroyablement mauvais. Enfin, je vous trouve adorable et je suis très reconnaissant que vous le fassiez, d'essayer de trouver des qualités à ce film qui a coûté 15 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont signé 15 millions d'euros de budget, et il dit partout qu'il a dû se serrer la ceinture, puisqu'il imaginait, j'allais dire, serrer la peinture, mais c'est dans tous les cas, ça marche, qu'il voulait un budget de 20 millions pour tourner le scénario le plus bête de l'année. Quand elle part, la pauvre petite Adèle, et qu'elle est sur sa calèche, et que le jeune homme qui l'aimait court après elle, elle lui dit « je t'écrirai », il lui répond « tu ne sais pas écrire ». Voilà, et il y en a d'autres, hein. Je vais épargner quand même, effectivement. « Je ne pourrai pas grandir si je ne connais pas ma maman ». Dit-elle, voilà. Enfin, non, c'est pas possible, Pierre. Il y a un moment, on signe quand même 15 millions d'euros pour un truc, effectivement, qui est écrit par une intelligence qui n'est même pas artificielle, ou en tout cas par une artificialité qui n'est pas intelligente. Ça commence par une scène extrêmement gênante et poujadiste, où on a ce faiseur de contenus digital, puisqu'à un moment, il y a un jeu de mots, on le reprend, parce qu'évidemment, il est jeune, donc il malmène la grammaire. Donc, le personnage du prof de français lui dit, ben non, digitaux, j'espère que tu n'en as fait plus d'un. Ha, 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 qu'est-ce qu'on rigole. Il est en train de faire une vidéo d'une jeune danseuse, enfin, d'une
influenceuse
mannequin, et il y a un problème de couleur. Et il lui dit, on pourrait peut-être changer la couleur de la robe. Et tout le monde lui dit, ben non, surtout pas. Et elle lui répond, mais tu veux pas changer la couleur des nymphéas qui sont derrière moi? Elle connaît pas le nom du tableau. Mais pourquoi s'en prend toujours aux mêmes cibles, aux mêmes personnages, avec ce regard méprisant sur les petites gens, cette hiérarchie? C'est consternant. Et le film est très, très laborieux. Et toutes les scènes de reconstitution qui ont coûté, mais alors plus d'un bras, ne servent à rien. C'est pour la montrer en train de traverser un pont ou monter un escalier. Non mais au secours !
Ça sert quand même à parler de la naissance effectivement de l'impressionnisme. Une intervention du public pour La Venue de l'Avenir de Cédric Clapiche.
Merci, bonjour. Bonjour. Ça marche ? Je ne m'entends pas du tout. Pardon.
Oui.
Voilà,
oui, ça marche.
Xavier, je suis désolé, mais je suis complètement à l'opposé de votre avis.
Mais tant mieux pour
moi,
vous.
Moi, j'ai adoré. J'étais au bord des larmes un certain nombre de fois dans ce film. Et vraiment, j'ai adoré justement le passage d'aujourd'hui à autrefois. Et j'étais très touché par les réconstitutions, par Victor Hugo, par... Monsieur Murat, non plus, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film, j'ai passé un très bon moment. Et j'espère que les spectateurs auront le courage d'y aller malgré vous.
Il y a quand même un souci historique, c'est qu'à un moment, on voit le Sacré-Cœur en construction.
Vous l'avez vu ou pas ?
Ah bah on voit quand même le Sacré-Cœur en construction et qu'il n'évoque jamais la Commune. Ça, c'est quand même gravissime sur le plan historique et politique.
Une autre intervention du public pour La Venue de l'Avenir de Cédric Clapiche. Je clôt donc la tribune sur La Venue de l'Avenir de Cédric Clapiche pour parler maintenant de Jeune Mère, réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne, qui ont gagné leur 8e récompense au Festival de Cannes il y a 15 jours, en remportant le prix du scénario. Ces jeunes mères sont 5, elles sont mineures, et hébergées dans une maison maternelle où le personnel les accompagne dans leur choix, devenir la mère de leur enfant ou le confier à une famille d'accueil. On suit ces jeunes filles à l'intérieur de cette structure publique et à l'extérieur pour découvrir leur histoire familiale et ou amoureuse. Pour 3 de ces 5 actrices, il s'agissait d'une première expérience au cinéma et la distribution compte aussi la comédienne India Air. Florence.
Oui, j'ai été déçue par ces jeunes mères parce que j'aime tellement le cinéma des frères Dardenne. Donc c'est à la mesure, ma déception est à la mesure de cette admiration que j'ai pour leur cinéma qui, d'ordinaire, réussit à prendre des sujets sociaux très durs et à nous faire sortir grandi de l'expérience éprouvante de se confronter à cette réalité sociale. Je trouve que là, il y a un côté film dossier, c'est lié au côté choral, parce qu'il y a plusieurs, on suit plusieurs histoires en parallèle, à cause du décor qui est cette maison maternelle. Et on perd beaucoup à suivre plusieurs histoires. Chaque histoire, du coup, est trop effleurée. Il y a des choses qui sont dites de façon trop insistante. Beaucoup est formulé. Et je trouve que le film passe à côté de ce qu'il aurait de plus intéressant, c'est-à-dire deux choses. La relation entre ces jeunes mères et leur bébé, qui finalement n'est jamais traitée. Les bébés sont là pour être nourris, pour être posés pour dormir, mais ils sont jamais vraiment traités comme des sujets.
Ah bon ?
À mon sens, vraiment pas. Et c'est d'ailleurs ce qui est douloureux pour moi dans l'expérience de voir le film, c'est qu'on a envie que le film affronte cette question du regard. Et là où c'est peut-être le plus approché, c'est avec le personnage de Perla, qui est une jeune fille, qui a un bébé, un petit garçon Noé, autour duquel elle tourne sans vraiment réussir à l'accrocher. Et puis, quelque chose se passe, tout ça n'est pas trop dit. Dans les autres personnages et les autres relations, tout est très formulé. Donc pour moi, il y a ça. Et puis, il y a le personnel des maisons maternelles. Ce serait un sujet passionnant de savoir qu'est-ce qui se passe pour ces femmes qui accompagnent ces très jeunes filles dans quelque chose qui est soit l'abandon, soit au contraire la maternité, donc des situations très compliquées. Qu'est-ce qu'elles vivent, elles ? À quoi ça les renvoie ? Comment elles se sentent responsables ou non ? Et ça, c'est laissé de côté. C'est un petit peu documentaire dans le traitement, mais c'est pas traité comme un objet romanesque. Et pour moi, le film, du coup, passe à côté de ce qu'il pourrait avoir de vraiment passionnant.
Moi, j'ai eu la sensation que le lien mère-enfant était quand même l'un des sujets du film. Xavier ?
Alors, c'est drôle, parce qu'on voit pas tout à fait le même film. On analyse les mêmes choses avec Florence. Et c'est bizarrement les raisons pour lesquelles tu ne l'aimes pas qui me font apprécier énormément. Pour moi, le sujet, justement, c'est pas la maison. C'est pas le lieu où elles sont qui aurait été effectivement la possibilité d'une fiction ou d'un documentaire. C'est plutôt la manière dont elles cherchent constamment à s'en échapper.
Et à affronter le réel.
Absolument. Et affronter le réel. Et ça pallie ce côté choral que, effectivement, il faut admettre, hein, ils ont reçu le prix du scénario. C'est presque, j'allais dire, ironique parce que c'est le bémol, j'allais dire, du film. Mais la manière dont ils inventent pour chacune, voire chacun, parce qu'il y a quand même quelques personnages masculins qui sont intéressants, des mouvements dans la ville, des mouvements de fuite, des mouvements d'altérité, des mouvements, effectivement, de comment prendre sa place dans la réalité, que je trouve extrêmement intéressant. Il y a un moment, une des jeunes filles qui retrouve sa mère, on comprend effectivement, tu as raison, c'est parfois peut-être explicatif, qu'il y a eu un beau-père toxique qui a battu et la mère et la fille, et elle est avec l'enfant, et la mère veut devenir une meilleure grand-mère qu'elle n'a été mère, et le bébé est au milieu, et au moment vraiment de la dispute, elle met, la jeune mère, le bébé dans une autre pièce pour essayer justement de la protéger. Donc je trouve qu'il y a toujours une présence de l'enfant qui est assez intelligente, il y a toujours une présence, et il y a toujours une vraie pudeur, et je trouve encore une fois que la caractérisation des personnages par leur fuite, et ben je trouve que ça fonctionne extrêmement bien parce que ça raconte leur rapport au monde, sans effectivement le dialoguer.
Et cette nécessité vitale de toujours d'aller de l'avant.
Trouver des appartements, il y a quelque chose de très matériel dans le film.
Ariane ?
Oui, alors moi je fais partie plutôt de la team qui trouve que c'est un film des Dardenne qui est mineur, et je le regrette. J'ai l'impression qu'il pêche là où d'habitude ils excellent. Par exemple, vous parlez du film choral.
qui est une rupture dans leur écriture.
Qui vraiment, c'est la première fois. C'est une première même.
Qui construisent un scénario à cinq personnages comme
ça. Et du coup, je trouve, moi, qu'on en voit surtout les coutures et les maladresses. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est habitué, l'écriture des Dardenne, ils collent à leurs personnages. En général, c'est un jeune héros ou une jeune héroïne, parfois un tandem. Je pense au film Un fils, que moi, enfin le fils qui est mon film préféré.
Ou l'enfant.
Et là, il s'éparpille. Alors, vous avez parlé du côté film dossier. Moi, je trouve surtout que ça fait film catalogue. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils viennent de faire des repérages et une espèce de reportage pour prendre chaque cas. Alors, on a la jeune fille qui se drogue, mais le petit copain est formidable. Et d'ailleurs, effectivement, il est assez formidable. On a la jeune fille qui se drogue pas, mais le petit copain qui la laisse tomber. On a la jeune fille qui a des problèmes avec sa maman.
Mais on va pas
tu l'as évoqué. Oui,
on
mais
va pas les énumérer toutes.
Mais moi, je pense que c'est important de les énumérer parce que c'est exactement ça, là, une des failles du film. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un truc de catalogue. Et la deuxième chose pour lesquels moi d'habitude j'aime les frères Dardenne, c'est leur direction d'acteurs, et notamment des jeunes acteurs. C'est quand même eux qui ont révélé au monde Jérémy Régnier et la formidable Émilie Dequen. Et là, je trouve qu'il y a quand même une inégalité entre certains jeux. C'est-à-dire qu'il y a certaines jeunes actrices qui ont tendance un peu à réciter. C'est pas de leur faute. Voilà. Et il y a vraiment une grande disparité dans leur jeu. Moi, je voudrais citer une actrice qui est une actrice professionnelle, qui s'appelle Christelle Cornil. C'est une habituée des films des frères Dardenne. C'est elle qui fait la mère toxique. Il faut au moins la saluer parce que c'est la seule qui, à mon avis, procure une émotion véritable.
Pierre, pour terminer.
Il y a la mise en scène et le scénario. Pour moi, la mise en scène des Dardenne est toujours aussi forte. Moi, j'adore leur façon de cadrer un visage comme ça en gros plan et à partir de ce visage, de partir, faire un mouvement de caméra qui replace à chaque fois le visage ou le corps dans la ville, dans la société. Ça, ils le gardent absolument magnifiquement, je trouve, du point de vue mise en scène. Je suis un peu d'accord avec le fait que moi, ce que j'aime dans les Dardenne, c'est quand ils s'accrochent à un personnage et qu'ils en font une tragédie. Il y a Olivier Gourmet qui découvre que brusquement celui qu'il a engagé a tué son fils. Qu'est-ce qui va se passer? Marion Cotillard dans Deux jours une nuit qui va quémander la fraternité des autres et sans la trouver. Et c'est un suspense. Là, je trouve qu'en diluant avec cinq personnages, il dilue un peu l'émotion qui existe, mais elle est diluée. Et puis, peut-être ont-ils eu tort, mais ils ont le droit de changer d'histoire, de scénario. Mais le prix du scénario est un peu ironique, oui.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour Jeune Mère de Luc et Jean-Pierre Dardenne? Un micro est à votre disposition, si besoin. Oui, madame, bonjour.
Je suis d'accord sur le changement d'optique en prenant compte de cinq personnages, mais également le fait que ce soit cinq personnages qui ne sont pas en interaction, ce qui trace le sujet de ces jeunes mères qui, chacune de son côté, essaye de tracer son propre chemin. Elles se croisent dans cette maison, mais pour elles, c'est un passage éphémère. Et s'il y a quelques moments d'entraide ou autre, oui, ça ne va pas plus loin. C'est pas un lieu de rencontre souhaité. Et donc, le fait que ça ne se croise pas fait aussi partie du scénario et de ce qui est destiné à montrer. Et le fait qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de mise en perspective du rôle des encadrantes, parce que ce ne sont que des femmes.
Oui.
Et l'idée, c'est de montrer ces jeunes mères essentiellement et de moins s'appesantir sur les autres personnages. Donc c'est une optique différente et effectivement un changement de perspective des frères Dardenne, aussi avec une fin moins pessimiste qu'à l'habitude.
Voire assez lumineuse. Après Jeune Mère des frères Dardenne, on passe à Mission Impossible, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise en sauveur de l'humanité, qui connaît très bien le dossier, puisque je le rappelle, Tom Cruise endosse le rôle de l'agent Ethan Hunt pour la 8e fois en 30 ans. Ce volet-ci est la suite du précédent. Tom Ethan lutte à nouveau contre une intelligence artificielle qui a programmé l'extinction de l'espèce humaine. Le contexte est le suivant, je cite, « Le monde change, la vérité disparaît, la guerre approche ». Comme son titre l'indique, « The Final Reckoning » serait vraisemblablement le dernier volet de la franchise. Donc, le film intègre ces trois décennies de cinéma avec des flashbacks plutôt épileptiques, qui cite notamment le premier Mission Impossible réalisé par Brian De Palma en 1996. En 96, Mission Impossible, ça durait 1h50. 30 ans plus tard, ça dure près de 3 heures. Xavier.
Et c'est très long. Alors j'aimerais ici que l'on respecte ma douleur, ma tristesse, parce que j'ai adoré les films de Mission Impossible. Et je me suis régalé de tous les épisodes, même l'avant-dernier. Et là, je me suis emmerdé. Mais un point. À la fin, je n'en pouvais plus. Je voulais que le méchant gagne pour qu'au moins on arrête cette poursuite interminable. De temps en temps, il y a des films où Tom Cruise se psychanalyse lui-même. Je me souviens de Edge of Tomorrow, par exemple. Il n'a plus de méchant contre lequel se battre, sauf l'âge. En fait, le vrai méchant du film, c'est lui-même.
Et ça donne. C'est passionnant.
C'est passionnant. Mais non, mais c'est passionnant ça. Sur la théorie, les enfants. Ah mais non. Ça donne une scène de poursuite en biplan parce qu'il avait tout fait, les trains, les avions, oui. Les sous-marins, les machins. Une scène interminable à laquelle même le metteur en scène ne croit pas puisqu'il est obligé d'injecter là-dedans deux autres suspens auxquels on ne croit absolument pas, avec une bombe qui explose d'un côté et de l'autre quelqu'un qui doit enfermer l'esprit maléfique dans une espèce de petite barre jaune, aucun intérêt. Enfin, c'est... Mais on se dit, mais c'est quoi ce scénario de merde? Et puis, alors, dernière chose, la coiffure. Quoi. Non mais la coiffure, de Tom Cruise. On passe son temps à regarder ce qu'il était dans les précédents épisodes et on se dit, merde, qu'est-ce qu'il a pris?
Il y a une remarque dans le film sur sa coiffure d'ailleurs.
Ah bah attends, oui. C'est obligé. Faut pas se disputer avec la coiffeuse ou le coiffeur avant le début du tournage. Tout le monde le sait.
En tout cas, Pierre, on est sûr que tu t'es pas disputé avec ton coiffeur.
Encore que, tu sais, je suis capable de tout.
Moi. Que d'accord. C'est pas. Mais que c'est pas.
Oh non, c'était affectueux.
Ben, moi je.
Pietro.
Alors moi, je n'aime pas tous les épisodes, mais celui-là, il m'a plutôt plu pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une des rares fois où l'on voit Tom Cruise mis en cause, c'est-à-dire qu'on lui qui se vante toujours de sauver son équipe et tout, ben là il y a quelqu'un qui lui dit non, pas tout le temps, on voit pourquoi il a mis en cause, c'est-à-dire qu'on lui qui se vante toujours de sauver son équipe et tout, ben là il y a quelqu'un qui lui dit non, pas tout le temps, on voit pourquoi il a laissé mourir certaines équipes, donc ça lui flanque un coup au malheureux et puis il devient vulnérable et donc en même temps assez touchant. Et puis il y a la mort d'un de ses copains qui est admirablement faite. C'est très bien mis en scène. Et un autre moment qui m'a semblé absolument grandiose, c'est l'exploration d'un sous-marin soviétique. Ça dure 25 minutes. Ouais. C'est sur 2h45, c'est vrai.
Donc, comme c'est sous l'eau, il n'y a pas de dialogue.
Qui sont grandioses. Wow. Donc, je ne suis pas peiné que la série s'arrête, je m'en fous un peu. Mais cet épisode-là, il est vraiment pas mal du tout.
En tout cas, dans cette scène, il n'a plus que son corps, puisqu'il en perd même sa combinaison.
C'est pas très vraisemblable.
J'ai besoin et envie de voir Tom Cruise à poil.
Mais je pense que ça raconte aussi le vieillissement du corps, justement. Enfin, je trouve moi, la seule chose qui m'a intéressée, c'est que c'est un film qui est hanté par la notion du temps qui... Alors, il y a sans arrêt, par exemple, des comptes à rebours, parce qu'il y a des bombes qui vont exploser. Et évidemment, comme on voit aussi sans arrêt le corps, quand même, de Tom Cruise, parce que, en termes de jeu d'acteur, c'est quand même très limité. Donc, c'est surtout un film musculaire, on va dire. Et là, on voit quelque chose qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire une interrogation par rapport au temps, par rapport au vieillissement. La faille, encore une fois, la faiblesse de ça, c'est qu'au départ, Mission Impossible, moi, j'étais très naïve. J'ai vu la série quand j'étais petite fille, avec mes frères, génial. On regardait. C'était un truc qui nous parlait d'une équipe. Là, l'équipe, franchement, elle est réduite à presque rien. C'est-à-dire qu'il y a lui. En plus, comme le méchant du film n'est pas terrible, mais il y a vraiment... que lui.
Ouais,
et c'est dommage parce que en plus l'équipe est constituée de très bons acteurs, je trouve, la plupart, et ils sont complètement esquissés, mis de côté, et même la scène dont tu parles, elle est pas terrible, franchement,
elle
Pierre. Mais non, elle est vraiment pas terrible. Quand la scène où un de ses coéquipiers et amis
je te
meurt.
Dis, c'est Tarkovski.
Oui,
c'est
non, les sous-marins, Pierre, c'est Tarkovski. Là, c'est pas grand-chose, je crois. Oui, on parle pas de la même scène. Je te parle de la scène où son ami est en train de mourir. Voilà, la seule très belle.
Jusqu'ici, nous n'avons pas révélé l'identité de cet ami, merci.
Donc voilà, je pense que
Florence.
C'est 3h50, 2h50 de film.
Non, pas 3h50, 2h50. Voilà.
J'ai eu l'impression que c'était 3h50.
2h50, 8 films et une très longue psychanalyse de Tom Cruise. Et donc tout dépend de votre degré d'intérêt pour Tom Cruise, mais moi je trouve ça passionnant. Voilà pourquoi. Parce que je pense que c'est un film qui est entièrement tourné vers Tom Cruise et vers l'idée de lui montrer qu'une star de cinéma, ça sert à quelque chose. Le film commence par un message de la présidente des États-Unis, qui est une femme noire. Clairement, quelqu'un au scénario pensait que la dernière élection américaine tournerait autrement, puisqu'ils avaient prévu Angela Bassett au générique dans le rôle de la présidente. Bon. Et donc, elle adresse un message à Ethan Hunt, alias Tom Cruise, pour lui dire « Ethan, tu es très important, tu as déjà sauvé le monde, tu peux encore sauver le monde, c'est très important pour tous les gens que tu ne connais pas. » Les inconnus que tu ne rencontreras jamais. Et tout au long du film, on nous parle de ces inconnus qu'il ne rencontrera jamais et pour qui il est très important. Mais qui sont ces inconnus ? C'est nous. Donc tout le film, c'est une sorte de réflexion sur à quoi sert une star ? Est-ce qu'une star a une mission ? Tout le film est construit pour être un film à l'ancienne.
En l'espèce, là, le discours, c'est une star sert à sauver le monde.
Une star sert à sauver le monde et une star sert...
Mais il le croit. Il le croit.
Il le croit. Et je pense que la façon dont, dont le film est construit, c'est vraiment un film à l'ancienne. Par exemple, le montage n'est pas du tout frénétique comme le montage des Marvel. Ou c'est pas du tout ce type de scène d'action-là. D'ailleurs, cette grande scène à la Tarkovsky, elle est lente, elle prend son temps. Il y a très peu de musique. Il y a en effet pas de dialogue. On est dans une sorte de moment contemplatif qui dure au moins 20 minutes. Enfin, c'est très étonnant au cœur d'un film comme ça. Ouais. Et par ailleurs, moi, ce qui m'a passionnée, c'est que c'est un film qui est hanté par un imaginaire kubrickien. Là, on a des citations du fœtus astral de 2001, l'Odyssée de l'espace, de l'ordinateur aussi de 2001, l'Odyssée de l'espace, d'Orange Mécanique. C'est très étonnant, quoi. Il se passe quelque chose dans ce film qui est assez passionnant, si on s'intéresse à Tom Cruise. Sinon, il faut surtout pas y aller.
Est-ce que quelqu'un dans la salle s'intéresse à Tom Cruise et à ce Mission Impossible, The Final Reckoning de Christopher McQuarrie ? Bonjour.
Bonjour. Bah, du coup, moi, je suis un peu plus mitigé que vous par rapport au film. J'ai trouvé que le grotesque rencontrait un peu le grandiose au niveau des deux grosses scènes majeures du film. Mais je trouvais le film très bavard par rapport au précédent, qui était vraiment beaucoup plus énergique.
C'est vrai qu'il y a des dialogues comme « Ah tiens, il y a une bombe » et l'autre dit « Il faut la désamorcer ».
Oui, et puis c'est quand même, et puis c'est quand même Ethan Hunt qui doit sauver le monde. Enfin, on l'entend énormément durant le film. Ah oui, non, mais c'est un petit peu dommage, je trouve. C'est vrai qu'à partir du 3, les films étaient vraiment des films d'action, mais qui arrivaient à se différencier un peu de d'autres films d'action, comme les James Bond, par exemple. Je trouve que les Missions Impossibles ont un côté un peu plus bourrin.
Oui.
Et qu'on perd vraiment ce côté bourrin pour avoir des choses un peu plus horrifiques avec la scène du sous-marin ou plus grand, encore une fois grandiose avec la dernière scène du film.
Merci pour votre intervention. Après Tom Cruise, on termine avec Hot Milk, premier film de l'anglaise Rebecca Lankiewicz, qui adapte ici le roman éponyme de Deborah Levy. Malgré la préparation d'un doctorat, Sophia est obligée de mettre ses études de côté pour se consacrer à sa mère, Rose, malade depuis des années et contrainte de se déplacer en fauteuil roulant. Mère et fille séjournent à Almeria, au sud de l'Espagne, où Rose est prise en charge par un médecin aux méthodes peu orthodoxes, Vincent Pérez à l'écran. Le duo étouffant mère-fille est rompu par une troisième femme, cavalière bohème, rencontrée sur la plage et incarnée par Vicky Krieps. Emma McKee et Sophia et Fiona Shaw interprètent sa mère, Ariane.
Alors, moi, c'est un film auquel j'ai eu envie de croire au départ. Ça n'a pas duré. Et je vous explique pourquoi. C'est que j'aime assez l'idée qu'on scrute comme ça, qu'on sonde cette relation quand même assez vénéneuse entre cette mère acariâtre et impotente et cette jeune femme trentenaire qui a l'air sous emprise. En tout cas, voilà, on sent que c'est un peu une cocotte minute et que ça va exploser à un moment ou à un autre. Bon, par ailleurs, ça se passe sur la côte andalouse, il y a ce soleil, on se dit, tiens, c'est intéressant. En même temps, c'est un soleil qui est assez écrasant, donc un peu menaçant, et cette côte, elle est un peu aride. Donc, il y a quand même plein d'éléments qui donnent envie, en tout cas, au départ. Le souci, c'est que le scénario, enfin, il y a un moment donné, ça stagne, hein, et puis surtout, il n'y a rien qui se passe, si ce n'est des choses assez ridicules. Tu parles de l'arrivée de Vicky Krieps dans le film.
On a l'impression. À cheval.
À cheval, avec les cheveux au vent.
Comme le prince charmant. Flard.
Oui, c'est comme un prince charmant, ou ces romans à l'eau de rose qu'on. Enfin là, voilà. Qu'on...
Ou un soap, au choix.
Voilà. Et en fait, je pense que ce film a peur de révéler le gouffre dont il a envie de parler. Et donc, il reste toujours au bord. Et du coup. Aucun trouble, aucune tension ne vienne bouger ces eaux que je trouve quand même très très tièdes.
Pierre.
Pour être fidèle à l'expression que Xavier a rappelée, que j'utilise quelquefois, c'est très mauvais.
Mais c'est tu fais de manière ahurie, j'adore.
C'est très mauvais. Voilà, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Mais alors, l'arrivée de Vicky Krieps sur la plage est ridicule. Les tentatives du pauvre Vincent Pérez pour nous faire comprendre la psychanalyse que devrait suivre cette dame qui ne peut pas marcher, c'est grotesque. C'est filmé avec une sophistication, mais qui ne mène à rien. C'est très mauvais.
Sur ce, nous allons passer la parole à Florent.
Oui, alors que dire ? Quelle tristesse pour Vicky Krieps, qui est une merveilleuse comédienne, et on aimerait la voir dans autre chose, et dans à nouveau de grands films. Là, le problème de Hot Milk, dont le titre dit tout, parce que c'est un titre métaphorique, c'est que tout est saturé de métaphores. À commencer par le handicap de la mère, qu'il faut prendre littéralement. C'est-à-dire, cette mère est un poids pour sa fille. Il n'y a pas d'autre lecture à en faire. Et c'est un poids pour nous. Et le film est saturé de symboles comme ça. On voit un serpent dans des fourrés. Il y a des scènes dans l'eau pour nous rappeler le liquide amniotique. Enfin, tout est signifiant. Et donc, à la fin, plus rien ne nous raconte rien. Puisqu'on est en permanence dans à surligner des choses au stabilo. Et en plus, ce soleil d'Espagne dont tu parles, Ariane, en effet, mais est photographié de façon très bizarre, très terne, très atone. Il y a des moments où on scrute l'écran sans trop vraiment voir les visages, alors qu'on est dans le registre du drame psychologique. Il faudrait quand même qu'on voit un peu les expressions des actrices. Donc c'est vraiment difficile.
Xavier, est-ce que tu vas sauver ce film ?
Non, si ton Molière, mais qu'elle est-elle faire dans cette galère, quoi ? C'est-à-dire comment Vicky Krieps et Fiona Shaw, qui est une remarquable
actrice
britannique de scène, d'opéra, enfin, elle fait énormément de choses et j'ai une admiration sans bande pour cette femme, se sont retrouvées dans cette daube. Alors, il paraît que c'est l'adaptation éponyme d'un roman qui a été un best-seller. Donc, on se dit, les gens lisent n'importe quoi. Déborah Lévy. Là, il y a un vrai problème, quand même, parce que à l'écran, c'est déjà pas grand-chose. Je n'ose même pas penser à ce que ça donnait en littérature.
C'est
deuxième
une
chose,
autrice,
on a
Lévy.
Eu... Bah, la pauvre, j'espère qu'elle a fait un procès. Alors, il n'y a plus que ça à faire.
C'est pas son
deuxième
livre plus
chose,
réussi,
on
mais
nous
bon.
A bassiné, sans doute à juste titre, sur le male gaze et le female gaze. C'est-à-dire qu'une femme tournant d'autres femmes devait être normalement hermétique à justement toute tentation de surexploiter le corps des femmes. Alors là, on y est complètement, quand même. Hein. C'est mais d'une bêtise sans nom. C'est le lesbianisme qu'on voyait dans les pornos des années 70. Exactement. Mais c'est... Et la fin. Mais la fin. Ah, oui, dire, avec des rires enregistrés, ce serait la meilleure comédie de l'année, quand même. Hein.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour Hot Milk de Rebecca Lankiewicz ? Non, alors virgule.
Allez-y, hein, non.
On passe à vos coups de cœur qui ont récemment occasionné des coups de gueule, certains auditeurs se plaignant de ne pas voir davantage de films en salle mis en avant dans cette séquence. Je vais donc être la première à essuyer les plâtres, la couverture du Festival de Cannes ne m'ayant pas donné le loisir de visionner les sorties du moment. Aussi, en attendant la sortie en salle de l'excellent Nouvelle Vague de Richard Linklater, en compétition à Cannes et en salle le 8 octobre, si tu fais l'amour, Ariane, mais moi j'ai beaucoup aimé, je vous recommande l'écoute d'un podcast dont les 20 épisodes commencent invariablement par ces mots, une histoire de la Nouvelle Vague par Jean Douchet. Magie de l'appli Radio France qui fait émerger des pépites radiophoniques réalisées il y a plus de 20 ans et qui n'ont pas pris une ride. Cette histoire compte 20 épisodes de 20 minutes dédiés donc à une révolution culturelle partie de France avant d'essaimer dans le monde entier. Révolution racontée par la verve et l'érudition accessible de Douchet, décédé il y a 6 ans. L'écouter, c'est toujours voir mieux. Donc je vous redis, une histoire de la Nouvelle Vague, série conçue par France Culture, est disponible gratuitement sur l'appli Radio France. Florence.
Alors c'est un film qui va sortir en salle le 4 juin, qui s'appelle Horizonte, le film d'un réalisateur colombien, César Augusto Acevedo, qu'on avait découvert à la Semaine de la Critique avec un très beau film, La Terre et l'Ombre, qui avait eu la Caméra d'Or. Et là, donc, c'est son retour après presque 10 ans d'absence sur nos écrans. Un film très étonnant, la quête d'un père disparu par deux personnages dont on comprend assez vite qu'ils sont eux aussi morts. Donc on est dans une sorte d'espace de limbe. Et c'est surtout une grande réflexion sur la violence et comment elle ronge l'Amérique du Sud et comment elle laisse des traces dans les relations entre les gens. Et la mère de ce duo mère-fils est campée par Paulina Garcia, très grande actrice qu'on avait vue dans Gloria de Sébastien Lelio. Donc c'est vraiment un très beau film, une traversée mystique et physique qui est assez passionnante.
Horizonte
de César Augusto Acevedo.
En salle le 4 juin. Ariane.
Oui, alors moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est un livre qui est signé Ava Cahen, donc, qui est une journaliste critique que l'on connaît bien et qu'on en aime bien ici à la Tribune du Masque. Et par ailleurs, elle est déléguée générale de la Semaine de la Critique à Cannes. Pourquoi je vous précise ça? Parce que ce livre s'appelle Nos premiers films et qu'il se lit et s'écoute comme une conversation et pour cause, puisqu'en fait, il s'articule autour de 5 entretiens au long cours de 5 jeunes réalisateurs et réalisatrices français qui nous racontent, aux côtés de leurs producteurs, comment ils sont parvenus, avec force, détermination et courage, à réaliser leur premier film. Il est d'autant plus passionnant, ce bouquin, qu'il nous fait passer de la fabrication d'un thriller d'espionnage, en l'occurrence Les Fantômes de Jonathan Millier, je pense que vous vous en souvenez, ou un mélodrame, le magnifique Le ravissement d'Iris Kaltenbach, en passant par exemple par une fable surréaliste que j'ai beaucoup aimée aussi, qui est Augure de Balogi, qui est, bon, c'était l'année dernière. Voilà, donc le bouquin s'appelle Nos premiers films, d'Ava Kahn. Il est édité chez Marest Éditeur. Pierre.
On reste dans la nouvelle vague avec un hommage à Françoise d'Orléac, qui est l'idole de ma jeunesse, oui. Et puis, bon, c'est la sœur de Catherine Deneuve, et on sait qu'elle est morte très jeune dans un accident terrible. Et pendant sa courte carrière, elle a quand même tourné des films aussi importants que L'homme de Rio de Broca, La peau douce de François Truffaut, Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy et Cul-de-sac de Polanski. Et voilà que sort un de ses premiers films, une comédie qui s'appelle La Gamberge, de Norbert Carbonneau, chez Fnac Vidéo. Alors, je vous mens pas, c'est peut-être pas la plus grande comédie française de l'histoire du cinéma, mais on retrouve d'Orléac avec son entrain, sa gaieté, sa grâce et ses rires en cascade. Et donc, voilà, pour elle, il faut voir La Gamberge. Dans le film, il y a aussi Jean-Pierre Cassel et dans un second rôle, Arletty.
Petit Xavier, sur Xavier pour terminer.
Pléthorique sur France TV ou sur Arte de courts-métrages que vous pouvez découvrir gratuitement en simplement vous abonnant au site, aux plateformes. C'est court, c'est gratuit. Et j'en ai gardé un en particulier parce qu'il m'a particulièrement ému. C'est Cœur perdu de Frédéric Lavigne, qui est le directeur artistique du festival Cérimania et qui raconte de façon absolument magnifique les amours au temps du Minitel et du début du sida entre deux garçons. C'est 30 minutes. C'est sublimement beau, d'une justesse sans nom. Et voilà, découvrez donc France TV, vous tapez Cœur perdu France TV, vous allez le trouver très rapidement, et découvrez cet auteur et ce court-métrage.
Xavier Le Herpeur, Florence Colombani, Ariane Allard, Pierre Murat, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque Cinéma. Les prochains enregistrements de l'émission auront lieu à nouveau un vendredi 13 même. Ce sera donc le 13 juin, et nous débattrons de l'actualité des livres et du cinéma. Stéphane Combe et Guillaume Giraud ont réalisé ce numéro du Masque avec Patrick Muller, Clara Galivelle, Stéphane Touvenin et Leslie Horowitz aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco qui a préparé l'émission avec Nina Malray et Célestine Babinet. Rendez-vous dimanche prochain au Théâtre de l'Alliance Française et sur France Inter, évidemment.